distinguons bien providence et gouvernement divin. C'est toujours une introduction. La fois dernière, je vous avais dit de bien distinguer le gouvernement de la nature et le gouvernement des personnes. Alors, le gouvernement de la nature, Dieu gouverne la nature par les causes secondes. La nature, notre univers, pas seulement notre petite planète, mais notre univers dans son entier, est gouverné par Dieu. Dieu gouverne le ciel et la terre. Mais il est gouverné par les causes secondes. Une organisation qui est extraordinairement belle, que nous connaissons que des petites parties. Le gouvernement des océans, c'est quelque chose, le gouvernement des océans. Et puis, surtout quand on regarde alors la variété des gouvernements des océans. Le gouvernement du ciel, l'atmosphère, le gouvernement de toutes les planètes, de toutes les planètes, toutes les étoiles. On n'arrive jamais à avoir un seul regard là-dessus, au point de vue humain. Ce sont des sciences différentes. Et les sciences différentes qui essaient de voir partiellement du point de vue du gouvernement des océans, du gouvernement du ciel, c'est-à-dire de l'atmosphère, du gouvernement des étoiles. On connaît très peu de choses là-dessus. Alors, le philosophe doit rappeler que ce gouvernement, il est majestueux. Et le philosophe n'en connaît pas non plus beaucoup, mais il sait qu'il ne connaît pas. Tandis que le savant croit connaître, parce qu'il connaît partiellement un petit domaine. C'est très beau connaître partiellement un petit domaine, mais ce petit domaine est dépendant de l'ensemble. De sorte qu'il ne le connaît jamais parfaitement. Il croit connaître, mais la connaissance des océans, c'est pas comme autre connaissance. Il faut dégringoler dans les océans, dans le fond des océans, pour voir ce qui se passe là. Et les bêtes de l'océan sont des bêtes. Et donc, elle se laisse conduire par la nature. Une baleine, elle se laisse conduire et elle mange les petits poissons. Ça fait partie de ce... C'est terriblement vorace, terrible. Il n'y a aucune charité. Dans le ventre de la baleine, aucune. Et du requin, encore moins. J'arrive une fois à Athènes, parce que j'aimais faire ce petit voyage quand... Quand j'étais à Fribourg, je pouvais le faire. Puis j'ai fait promis à ma sœur d'aller tous les ans à Jérusalem. pour prêcher. Alors je revenais par Athènes. J'aime beaucoup de faire ce loin. On quitte la Palestine et on va en Grèce. C'est les deux pôles de notre civilisation. Alors, j'étais arrivé à Athènes après un accident terrible, parce que les baleines, les requins étaient remontés jusqu'au le Pirée, donc jusqu'au la mer à Athènes. Il y en avait interdit alors les bains. À Athènes. Et puis, quelqu'un dit, oh, tant pis, le requin, on le voit venir, il n'y a pas de danger. Et malgré ça, il a voulu se plonger dans le Pirée. À peine, ils ont une odeur de l'humain extraordinaire. À peine se déplonger que le requin est apparu. Et le requin en face de l'homme, vous voyez, ce face à face, assez curieux, et avec sa queue. Et les gens regardaient, parce qu'il avait dit qu'on n'avait pas le droit, et il avait dit, oh, tant pis, je vais me peigner. Et le requin, avec sa queue, a atteint l'homme qui est en train de nager. Et l'a lancé en l'air. Et puis, il était là, avec sa gueule, pour le recevoir. C'était pas drôle du tout. C'était bien, bien joué. Alors, le gouvernement de Dieu. Philosophe doit tout regarder et c'est évidemment quelque chose d'assez frappant, ça. Les causes secondes, il y a un ordre des causes secondes, et quand on ne veut pas regarder ces causes secondes, on manque de prudence. Cet homme n'a pas respecté cette prudence. Il était étranger à Athènes, alors qu'à Athènes, ils savent très bien quand les requins montent jusqu'au ancien, les requins gouvernent. Ce sont les tyrans de l'océan. Et qu'au seconde, c'est ça. On fait attention, l'homme n'est pas maître d'un requin. Et le requin est maître chez lui, dans les eaux. Il connaît ça. C'est comme les histoires avec l'éléphant. C'est les mêmes choses comme ça. On apprend toujours des tas d'histoires avec les éléphants. Quelque chose d'analogue du reste. Alors, ce serait intéressant, éléphant et requin, vous voyez, c'est... Le livre des requins, l'humiliation. Parce que c'était quelqu'un qui s'approchait de moi, qui n'était pas un indigène, évidemment. C'était un étranger. Alors, l'éléphant n'est pas bête. Il laisse avancer l'autre, et avec sa trompe, il peut arriver à le prendre. Et on m'a raconté ces histoires-là aussi, quand on va en Afrique, ces histoires d'éléphants qui prennent. Bon. Le monde physique égaux gouverné par les causes secondes. Et il y a un ordre dans les causes secondes. Un ordre dans l'océan, un ordre sur la terre. Et l'homme doit se soumettre à ces causes secondes. Il ne les commande pas. Depuis le péché. Avant, avec la grâce de justice originelle, il était le roi de la terre et de la mer. Il avait donc autorité sur les causes secondes. Tandis qu'on a perdu l'autorité des causes secondes. L'homme. La grâce chrétienne ne vous donne pas de l'autorité sur les causes secondes. Vous voyez, la nature humaine a connu cet état pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Et donc, notre race a connu en Adam et Ève un état très particulier de domination du monde. Vous voyez, dans Platon, cette espèce idéale du roi, de l'homme roi, le vieux reste qui reste en nous de ce que Adam et Ève avaient, ce pouvoir à l'égard des causes secondes, la mémoire. On a connu ça, c'est pour ça qu'on en a une espèce de nostalgie. Et chez certains, cette nostalgie est très forte. Dominer l'univers par ses causes secondes. L'univers est commandé par les causes secondes. Et providence et le grand divin. La providence, c'est Dieu dans sa sagesse connaît parfaitement l'ordre du monde, et le gouvernement, c'est l'exécution. Dieu commande à l'univers physique, à notre univers astral, à notre univers de la mer, selon les causes secondes. Et les causes secondes peuvent avoir des ratés à cause de la matière. À cause de la matière, il peut y avoir des obstacles. Et lors des causes secondes ne se réalisent pas. Alors, l'architecte le sait très bien. Il doit respecter les causes secondes dans le texte. Et il n'a pas prévu toutes les causes secondes. Quand il se met à creuser des fondations, il y a des choses qu'il n'a pas prévues. Et devant lesquelles il doit se soumettre. Et à ce point de vue-là, c'est toujours très intéressant, puisque l'architecte, ars coadjuvans naturam. Ars coadjuvans naturam. C'est-à-dire un art qui aide la nature. Qui aide la nature à être plus parfaite. L'homme n'est pas associé au Créateur, mais il est associé indirectement par l'art. Au gouvernement de Dieu. Et il vient ajouter au gouvernement de Dieu son propre gouvernement. Création, construction d'une maison. La construction d'une maison ne fait pas partie directement de l'ordre du monde. La construction d'un barrage ne fait pas partie de l'ordre du monde. Et ce barrage peut changer les relations des causes mondes. Et les expériences qu'on a faites pendant un temps, ces expériences qu'on a cessées parce qu'elles étaient dangereuses, pouvaient modifier l'ordre du monde. Pouvaient modifier leurs décisions. Et plus l'art devient important, coadjuvans naturam, il peut briser l'ordre du monde et amener des phénomènes tout à fait nouveaux, imprévisibles, qui ne sont pas sur l'ordre du monde. J'avais été au Rwanda où la chasse était interdite, parce que la chasse, c'est l'art qui vient troubler l'ordre du monde. Il vient troubler l'ordre du petit lapin, du lièvre, de la chèvre, de tout, et du lion. Il vient troubler ça. Et au Rwanda, la chasse était interdite. Et par le fait même, les animaux n'avaient pas peur de l'homme. C'était presque comme un retour au paradis terrestre. Hein. On avait presque envie de caresser les lions. Parce qu'ils étaient très, très paisibles. Et mais c'est très curieux. Hein. Et le Rwanda a été victime de certains aspects de jalousie. Il n'était pas armé du tout devant ça. Nous, dans nos pays, on est beaucoup plus armés devant les jalousies. Parce qu'on doit lutter tout le temps. Mais dans un pays où il n'y a pas de lutte, et où on dit tout est merveilleux, c'est l'ordre divin, l'ordre de la nature. On oublie que l'homme, avec ses passions, peut ne pas respecter l'ordre divin, partiellement. Et à ce moment-là, on n'est pas armé pour ça. Et c'est pour ça que ça a été si violent. C'était très, très extraordinaire, la révolte au Rwanda. Et terrible. Un pays où j'étais paisible, calme, c'était assez extraordinaire. Il y avait un foyer de charité au Rwanda, c'est pour ça que j'avais eu l'occasion d'aller prêcher dans ce foyer de charité et de voir ce point de vue très étonné. La devise du pays, c'était là où les dieux passent leur nuit. Pour bien montrer ce point de vue de la paix. Au-delà de choses. Alors, il faut donc bien regarder le point de vue de l'ordre de l'univers que les savants essaient d'étudier partiellement. Ils étudient un tout petit peu. Pas l'ensemble. Je crois qu'on n'a jamais saisi l'ensemble de l'ordre du monde. Et cet ordre du monde peut être arrêté par l'art. L'homme ne respectant pas l'ordre du monde et intervenant d'une manière artistique. Et en intervenant d'une manière artistique, il domine d'une certaine manière cet ordre du monde il en détourna le contour, il en détournait la manière dont il exercerait normalement pour y mettre quelque chose de lui. Le gouvernement de Dieu vis-à-vis du monde physique respecte l'ordre de la nature. Respecte l'ordre de la nature qui est l'ordre de l'eau, de la matière, de l'air et du feu. Les éléments physiques. Je vais à Fribourg une fois, parce qu'on peut le faire facilement, avec des savants, une espèce d'étude qu'on a fait pendant toute l'année, pour savoir si les quatre éléments d'Aristote, la terre, l'eau, le feu et l'air, et puis la quintessence, est-ce que le progrès de la science a supprimé cela? A-t-on le droit philosophiquement de maintenir les quatre éléments? Vous voyez, ça regardait la question de l'ordre du monde. Parce que les quatre éléments, c'est comme des pivots dans l'ordre du monde. La terre se gouverne autrement que l'eau, et autrement que l'air, et autrement que le feu. Il y a un mouvement naturel différent, et donc il y a un ordre différent au point de vue naturel. Alors c'est intéressant de se poser la question, est-ce que les quatre éléments d'Aristote sont supprimés avec le progrès de la chimie, le progrès de la physique, les connaissances astronomiques, où est-ce que ça demeure? C'est une question qu'on doit se poser, question de critique, hein. C'est une question de critique. Et la conclusion, c'est que les quatre éléments repose sur une connaissance directe, première, plus fondamentale que toute expérimentation. C'est la connaissance de l'homme vis-à-vis de l'univers, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'ouïe. Et ça fait appel à ce qu'on appelle, au point de vue philosophique, les sensibles propres. Et les sensibles propres sont antérieurs à toute expérimentation. L'homme a été créé par Dieu. Alors, on peut très bien me dire, ne dites pas par Dieu tout de suite, pour du philosophique. L'homme a été créé, est apparu comme le maître du monde. Le monde physique est pour l'homme. Et il est pour l'homme, pour l'art. C'est l'art qui transforme le monde physique. Par le feu, l'homme est capable de capter le feu. Alors, on voit très bien les mythes anciens. Vous savez, c'était ce mythe que Marx a étudié dans sa jeunesse. L'homme devenant le maître du feu. À partir de là, l'art est complètement changé. Puisque grâce au feu, il peut se servir de certaines choses qu'il ne se servirait pas autrement. Au fond, le pouvoir de l'homme, en maîtrisant le feu et en s'en servant, a permis à la technique de se développer. L'homme est capable de modifier l'ordre de l'univers par l'art. Évidemment, c'est une modification très petite comparativement à ce que c'est que la nature. Mais parce que il peut, vis-à-vis de la nature, avoir ce pouvoir d'une techné. La techné, la technique, l'art, c'est à l'égard du monde physique. Et c'est à l'égard du monde physique, à l'égard de la nature, à l'égard de l'eau, à l'égard de l'air, à l'égard du feu. Alors ceci, c'est le gouvernement de la nature. Il est fixé par Dieu. Il est fixé, l'homme doit l'admirer, doit le reconnaître. Il doit savoir ars adjuvans naturam. L'art se sert de la nature et l'art peut modifier la nature. Et il peut modifier ces quatre éléments et s'en servir. L'art culinaire, il se sert de la nature. Apparaît dans l'univers la vie. Le vivant, chez les animaux et chez l'homme, donc, est capable d'utiliser la nature jusqu'à un certain point, parce qu'il est aussi dépendant de la nature. C'est sûr. Il est dépendant de la nature en ce sens qu'il est dominé par la nature. L'homme peut être dominé par le feu. L'homme peut être dominé par la pluie. Peut être dominé par l'orage. Les forces de la nature sont infiniment puissante à côté de l'art de l'homme. Les forces d'un orage, c'est quelque chose d'extraordinaire comparativement à la puissance de l'homme. Il est complètement dominé par ça. Il y a un ordre de la nature que le vivant se sert, mais il est dominé aussi par sa faveur. Et ça explique du reste comment certains animaux, certaines espèces d'animaux disparaissent. On m'a dit le chiffre, je n'ose pas le dire parce que j'oublie ces choses-là, mais c'est extraordinaire de voir combien d'espèces d'animaux, depuis les moustiques, combien d'espèces disparaissent chaque année. Autrement dit, on va avoir un appauvrissement de plus grand. Il n'y a que quelques espèces qui demeurent, qui sont utiles à l'homme. Et c'est vrai, regardez, l'homme, quand l'homme habite un endroit, mais les serpents disparaissent. Au bout d'un certain temps, il n'y en a plus. Heureusement, il reste. et pas beaucoup de choses, les moustiques aussi. Ça disparaît. L'homme domine par l'art. Et il y a comme une espèce de lutte constante entre les deux, la nature et l'art. Il y a ça comme pouvoir de l'homme. Donc, l'équilibre du monde est modifié par l'art humain. Et cet équilibre du monde est modifié par l'art humain, et plus on avance, plus l'art est puissant. L'homme arrive à avoir actuellement une espèce de puissance extraordinaire entre ses mains par rapport à la nature. Il arrive à capter ces forces de la nature. Il ne les invente pas, il les capte, il les utilise. Et c'est étonnant de voir cela. Et cela fait partie du gouvernement divin. Alors, quand l'homme intervient, on a affaire à un gouvernement divin qui est tout autre. À l'égard de la nature et des vivants qui ne sont pas l'homme, Dieu les gouverne selon les lois de leur nature. Dieu respecte ces lois de la nature. Et ces lois, avec le vivant, sont quelquefois en pleine lutte. La vie ne se développe pas dans le calme et la paix. Regardez chez les animaux, chez les poissons. Les plus gros mangent les plus petits. Et donc ça se fait dans la lutte. Et cette lutte, saint Augustin dit, c'est la suite du péché originel. Je ne sais pas ça. Je n'oserais pas l'affirmer. Parce que je crois que c'est naturel à un animal de se servir aimablement d'un plus faible que lui et de le manger. Ça lui fait honneur. Ça fait honneur au plus petit d'être mangé par le plus gros. Parce qu'il habite chez lui. Donc, il est honoré. Et je crois que c'est un ordre naturel. Je crois que naturellement, il y a la lutte. C'est un problème qui a été très discuté au point de vue théologique. Est-ce que de fait, la lutte qu'on voit chez les animaux, est-ce que c'est une conséquence du péché originel? Ou est-ce que c'est naturel? N'expliquons pas trop vite comme conséquence du péché originel. Voyons que de fait, il y a quelque chose avec la vie par rapport à la nature. La vie domine la nature. Et la vie domine la nature qui fait que les vivants, entre eux, peuvent lutter. Ils ont tous une nature. Et ils la dominent plus ou moins, selon qu'ils sont plus ou moins vivants. Et le rythme d'un animal par rapport à sa nature est très particulier pour chacun. La cause matérielle, c'est-à-dire la mort, l'emporte différemment chez tous les vivants. Tous les vivants meurent. tous sur la terre. Le moustique ne vit pas très longtemps, tandis que l'éléphant vit longtemps. On voit le rythme particulier des deux. Et c'est un rythme différent. Tout ça est commandé par des lois. Et c'est gouverné par Dieu, l'ensemble. Dieu, le maître du monde. Lorsqu'il s'agit de l'homme, puisque pour l'homme, Dieu a créé l'âme. Je peux philosophiquement montrer que l'âme est créée directement par Dieu. L'intermédiaire des causes secondes est dépassé par une action directe de Dieu. À quel moment cette intervention de Dieu s'est faite, on ne peut pas le savoir exactement. Saint-Père, dans l'encyclique sur la vie, dit on ne peut pas le savoir. Il est vrai. Vous avez toutes les théories possibles. Vous avez la théorie de saint Thomas, alors qui est complètement dépassée aujourd'hui, parce qu'au fond, ça dépend du savant. Mais est-ce que le savant peut savoir? Est-ce que le biologiste peut savoir quand l'âme est créée? Non, je crois qu'il ne peut pas le savoir. Parce que l'âme est au-delà de sa science biologique. Donc il ne peut pas savoir. Il peut présumer qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Mais savoir avec certitude quand l'âme est créée. Alors, beaucoup aujourd'hui de philosophes ou de chrétiens veulent dire que l'âme est créée tout de suite. Ils disent ça dans un point de vue apologétique pour l'avortement. Et le Saint-Père répond que même si l'âme humaine n'est pas là dès le début, la conception d'un être humain est en vue de l'âme. L'embryon, même si l'âme n'est pas présente, est pour l'âme, selon un ordre profond et divin. Et par le fait même, le supprimer, c'est supprimer un être humain. Donc c'est supprimer parce que, selon la nature, ce développement de l'embryon aurait donné un homme. Dieu aurait créé l'âme. Et donc l'homme n'a pas le droit de le supprimer. Il faut bien comprendre que l'avortement reste pécamine, reste la suppression d'un homme, même si l'âme n'est pas créée tout de suite. L'intention de la nature fait que l'embryon est en vue de l'homme. Il y a un ordre, donc le supprimer, c'est supprimer nature humaine. Et par le fait même, ce n'est pas respecter l'œuvre de Dieu. C'est aller contre son autorité. L'âme échappe au pouvoir de l'homme. Alors, je crois ça très important quand il s'agit du gouvernement de Dieu. La lutte d'aujourd'hui, et pas seulement d'aujourd'hui, mais déjà depuis 100 ans, et de dire qu'il n'y a pas d'âme. C'est un faux problème. Je me souviens, sitôt la guerre, j'étais à Fribourg, et 2 ans après, Genève, l'université de Genève avait eu une invitation de l'université d'Athènes pour venir les voir. Et alors, comme je connaissais certains professeurs à Genève, ils m'avaient dit « Venez avec nous, personne ne saura que vous êtes de Fribourg, venez avec nous ». Ce serait intéressant d'aller à Athènes voir un peu ce qui se passe maintenant. Et on a été très bien reçus. Je me souviens, c'était... Et ces professeurs orthodoxes, presque tous, croyants, m'ont tout de suite posé ce problème. Pouvons-nous, aujourd'hui, affirmer que l'homme à une âme? Ou est-ce que c'est uniquement notre foi chrétienne? Et le problème d'un savant, d'un philosophe à Athènes. Alors, je rédique, c'est triste qu'à Athènes ne comprenne pas, vu ce que Platon a dit, vu ce qu'Aristote a dit. Platon est le philosophe de l'âme. Aristote est le philosophe de l'âme. Tous les deux se réunissent là. Et ils voient que l'âme, on peut l'affirmer philosophiquement. C'est une réalité, et la réalité profonde qui est en nous. Ils se posaient la question. Est-ce qu'avec les progrès de la biologie, est-ce qu'on ne doit pas dire que... On ne sait pas. L'homme est un vivant, oui, comme un animal est un vivant, et je ne peux pas découvrir l'âme comme quelque chose de spécial. Ça m'avait beaucoup frappé, ça. Ces professeurs orthodoxes se posent la question. Et depuis, je suis très attentif à cela. Et je vois progressivement... rejette l'âme. On ne peut plus en parler. Je voyais un professeur de biologie de 50 ans me disant, il y a quelques années, me disant, c'est affolant, je n'ai plus le droit de parler de l'âme. On me l'a interdit. On m'a dit, chez vous, très bien. Mais pas comme professeur de biologie. Comme professeur de biologie, vous n'avez pas le droit de parler de l'âme. Parce que on ne l'atteint pas. Biologiquement, avec la science biologique. Vous affirmez l'âme parce que vous êtes croyant. Mais vous ne l'affirmez pas comme savant. Et donc, vous devez supprimer de parler de l'âme. Et philosophiquement, on sait très bien que certains philosophes français et étrangers disent que l'âme ne peut plus être affirmée philosophiquement. Vous voyez, c'est, je crois, très important le problème que nous voyons. Est-ce que l'âme existe ? Est-ce que l'âme est créée directement par Dieu? L'âme existe. C'est un problème philosophique. Pouvez-vous expliquer la connaissance, la science, les mathématiques, sans poser une intelligence? qui s'exerce au-delà du point de vue d'un organe matériel. Y a-t-il en nous quelque chose qui dépasse la matière, qui dépasse notre corps, qui dépasse... Autrement dit, le problème philosophique de l'existence de l'âme, l'âme humaine spirituelle, qui n'est pas engendrée et qui n'est pas donnée par les parents, le père et la mère, et qui n'est pas, selon uniquement la procréation vue d'un point de vue biologique, est-ce que l'âme est une réalité créée directement par Dieu? Je crois que ce sera, c'est déjà le problème philosophique numéro un. Vous voyez, pour chasser l'existence de Dieu en nous, on chasse la création de l'âme. Si l'âme n'existe pas et n'existe en nous que des forces liées à notre corps, il est évident que nous ne pouvons pas découvrir l'existence de Dieu. Ah, c'est ça qui est important. Autrement dit, l'athéisme actuel au plan philosophique veut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est supprimer la réalité qui nous permet de poser l'existence de Dieu. S'il n'y a plus d'âme spirituelle, une âme créée directement par Dieu, si l'âme dans l'homme n'existe plus, qu'il n'y a plus que le corps, un corps particulièrement évolué, particulièrement sensible, vous ne pouvez plus découvrir l'existence de Dieu. Alors, vous y croyez par la foi, mais votre intelligence ne peut plus découvrir l'existence de Dieu. Alors, vous êtes dans ce qu'on appelle, au point de vue théologique, le fidéisme. Et je crois que c'est le plus grand danger actuel, parce que c'est la défense de l'athéisme, de dire que l'âme n'existe pas. Tant que je peux découvrir qu'il y a une âme en moi, une âme spirituelle, je peux parler de la découverte de Dieu. Mais s'il n'y a plus d'âme spirituelle, je ne peux en parler que par la foi, et que dans la foi, je ne peux plus découvrir l'existence d'un être supérieur, l'existence d'un être premier. Je verrai l'origine et mon origine uniquement dans mes parents. Et qui ne sont pas source de mon âme. Mes parents sont source de mon corps, mais pas de mon âme. Alors je crois que, au point de vue du gouvernement divin, c'est le premier grand problème d'aujourd'hui. Parce qu'on glisse pouvoir affirmer un athéisme qui convient à l'homme. S'il n'y a pas la foi, on est athée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.